Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons retrouver nos invités dans quelques minutes pour parler du rôle que peuvent jouer des médias dits internationaux dans la construction d'une opinion publique en Afrique. Nous allons retrouver un autre, et il s'agit d'un Guinéen.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Tierno Monenembo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain originaire de la Guinée, lauréat du prix Renaudot en 2008 et vous êtes en ligne de Conakry. Vous avez initié une pétition pour demander la libération de prisonniers politiques. Les prisons guinéennes en comptent-elles beaucoup?
Ah oui, en ce moment, il y a au moins 400 prisonniers arrêtés après les événements du troisième mandat, là, au mois d'octobre. De toutes les catégories sociales, il y a des anonymes, il y a des grandes pointures de l'opposition et du Front National de la Défense de la Constitution. Les prisons sont pleines en ce moment en Guinée, notamment le grand journaliste guinéen Amadou Doulde Diallo.
Vous dites dans votre pétition qu'ils sont détenus arbitrairement et dans des conditions inhumaines. Quelles sont ces conditions inhumaines que vous dénoncez aujourd'hui?
Des conditions hygiéniques absolument catastrophiques. L'alimentation, elle est mauvaise, elle est insuffisante. Et les victimes médicales sont rares. Et on n'attrape pas facilement le coronavirus à cause de la surpopulation. Et d'autres maladies, la diarrhée, la dysenterie, évidemment, la gale et bien d'autres choses. Et donc ces conditions sont absolument catastrophiques.
Vous parlez aussi du cas de 150 mineurs qui auraient été arrêtés. 20 d'entre eux ont bénéficié d'une libération conditionnelle, mais les autres ont été déférés devant le tribunal militaire. Dans quel cadre ces mineurs ont-ils été arrêtés?
On les a ramassés dans les rues, vous savez, lors des manifestations. L'armée, surtout la nuit, après les manifestations, l'armée s'aventure dans les quartiers, arrête n'importe qui, parfois ils vont dans les maisons, tous les gens en train de dîner, ils les arrêtent, parfois ils les trouvent en train de dormir, ils les arrêtent. Et c'est vraiment l'abus de pouvoir total. Et beaucoup de... Vous savez, des familles entières ont été arrêtées. Ils sont surtout en ce moment détenus à la prison centrale de Conakry. Des familles entières. Le père, les enfants, la maman, parfois les petits-fils.
Une semaine après le lancement de votre pétition, où en êtes-vous?
Il y a au moins 2700 à 2800 signatures en ce moment. C'était beaucoup et j'espère que ça va continuer. J'espère que vous allez signer vous-même, j'espère signer autour de vous.
Quel nombre de signatures visez-vous?
Je ne vise pas de nombre particulier. Je pense que, vous savez, les signatures sont plus symboliques qu'autre chose. 2000 à 3000 signatures, c'est déjà très bien. Et puisqu'il y a des gens quand même qui sont au courant de cette pétition sans signer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait le maximum d'informations, que les gens soient alertés sur la situation des prisonniers politiques en Guinée. S'il y a 3000 signatures, qu'il y a au moins 10 000 personnes qui lisent la pétition. C'est déjà très intéressant.
Vous pensez que les arrestations d'opposants ne font pas suffisamment l'objet d'attention?
Ah non, je ne pense pas du tout. Puisque vous savez, l'Afrique, c'est un peu le continent marginal du monde, c'est un peu le bout du monde. On s'y intéresse de temps en temps pour la forme amnistie internationale, on va pouvoir prendre des petits papiers. Les organisations internationales vont faire pareil, les cantons chanceleries, elles vont le faire pour la forme, mais ça ne change pas forcément la situation des prisonniers.
Mais qu'en est-il de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale ouest-africaine?
La CEDEAO et l'Union africaine, ce sont des organismes complètement dévoyés, des organismes qui sont au service des clichés qui nous gouvernent. On a vu le comportement de la CEDEAO lors de la question du troisième mandat en Guinée, ils étaient à 100% derrière Alpha Condé. 100%. On ne peut pas faire confiance en ces gens-là.
Votre initiative arrive après celle des familles de certains détenus. Pourquoi les autorités guinéennes restent-elles pour le moment inflexibles, selon vous?
Et parce que c'est le principe même des dictatures africaines. C'est une dictature intolérante, arrogante, qui aime prouver qu'elles sont les meilleures, les plus fortes, et qu'elles ne négocient pas, elles ne plient pas, parce que pour elles négocier, pour elles tendre l'oreille, c'est un acte de faiblesse. Ce qui n'est pas vrai. Écouter, c'est toujours bon pour tout le monde. Et malheureusement, nos présidents, nous, n'écoutent personne. mais bon, le destin est toujours là. Vous avez vu ce qui est devenu Idriss Déby entre-temps.
Quand vous affirmez que depuis l'accession d'Alpha Condé au pouvoir en Guinée, la répression, ce mal endémique de la Guinée a ressurgi avec une virulence qui rappelle les années noires, celle des pendaisons publiques et du camp Boiro. Ne craignez-vous pas de radicaliser le pouvoir et de ne pas obtenir finalement ce que vous souhaitez, la libération de ces prisonniers politiques?
La radicalisation du pouvoir entraînera forcément la radicalisation du peuple. Pourquoi pas? Il n'a qu'à se radicaliser s'il veut. Mais on ne peut pas ne pas dénoncer le comportement absolument intolérable du régime d'Alpha Condé aujourd'hui. Et ce qui est absolument inadmissible, c'est que ce soit un intellectuel qui fasse ça. Si c'est un soudard, un illettré, je n'aurais rien dit. Mais c'est un ancien professeur de droit à la Sorbonne. Cet homme connaît le monde moderne. Il connaît toutes les notions qui régissent le monde moderne, la vie politique moderne. Et il est en train de les bafouer à tour de bras. J'ai l'impression qu'il est encore pire que l'ancien Condé. Et pourtant, c'est un ancien prisonnier politique, Alpha Condé. Il a été arrêté ici arbitrairement. Tout le monde l'a défendu, dont moi. Il est en train de faire pire que ce geôlier. C'est intolérable. Sur le plan des droits de l'homme, sur le plan aussi de l'économie. Il est incompétent à l'excès. C'est le pire régime qu'on a en Guinée depuis l'indépendance.
Tierno Monenembo, merci beaucoup.
Merci.
Écrivain d'origine guinéenne, lauréat du prix Renaudot en 2008. Merci d'avoir été avec nous.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et à cette occasion, nous allons parler des médias africains. Peuvent-ils s'imposer face aux géants extérieurs au continent? Comment construire une opinion publique africaine devant ces médias et peuvent-ils jouer un rôle dans la construction de cette opinion? Nous en débattons avec quatre invités. Amadou Ntouré, conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Monsieur Touré n'est pas encore avec nous, il l'a été également ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement malien. Denis Kouebo, en ligne de Douala, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Monsieur Kouebo, vous m'entendez? Bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup Monsieur Kouebo. Et nous avons également en ligne d'Abidjan, Dr Cédric Abba, bonsoir.
Liliane, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Ex-Africa numéro 1.
Merci beaucoup, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef à Jeune Afrique. Et nous avons également avec nous M. Yves Ekwe Amaizo. Bonsoir, M. Amaizo.
Bonsoir, bonsoir à tous vos auditeurs.
Économiste spécialisé en stratégie, vous êtes également, M. Amaizo, directeur de Afrocentricity à Lyon, ici en France. Et on me fait signe que M. Touré m'entend maintenant. M. Amadou Ntouré, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci d'être avec nous.
Bamako.
En ligne, évidemment, en ligne de Bamako au Mali. Vous êtes donc, je le disais, conseiller spécial du Premier ministre malien et ancien ministre de la Communication et du porte-parole du gouvernement malien. Alors, vous le savez tous, messieurs, vous avez appris comme moi le décès de M. Béchir Ben Yamed et on ne saurait ouvrir ce débat en ce jour singulier du 3 mai, donc journée mondiale de la liberté de la presse, sans évoquer en quelques mots, sa mémoire. Il fut quand même un des pionniers de la presse panafricaine et fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique, M. Cédric Abba.
Je ne peux que saluer la mémoire de Béchir Ben Yamed, fondateur du journal Jeune Afrique, Afrique Action, à ses débuts, et qui a accompagné les luttes d'indépendance de la plupart des pays, particulièrement les pays lusophones qui ont accédé à l'indépendance sur le tard. Béchir Ben Yamed a créé un journal, il en a fait une institution et nous avons tous, beaucoup d'entre nous, avons été formés à son école et jusqu'à récemment encore, ce qui était admirable dans son cas, il continuait à venir au journal. J'ai le souvenir que j'essayais de venir le plus tôt possible. J'étais une de deux ou trois personnes qui arrivaient le plus tôt au journal et je le trouvais tout le temps, malgré son âge avancé. Il était investi dans le journal et avait le souci de la rigueur, de la performance, de l'excellence. Je crois qu'aujourd'hui, il nous laisse un héritage un magazine qui est devenu une institution.
Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Touré, c'est vrai que vous ne parlez pas au nom du gouvernement malien, mais en tant que journaliste, peut-être un mot sur sa mémoire.
Voilà, très bien. Je parle en tant que journaliste et non en tant que conseiller social ou ancien ministre. Je m'incline naturellement devant la mémoire de M. Benyamed, un homme qui a créé Afrique Action, qui est devenu jeune Afrique, un homme qui a été de tous les combats en Afrique et en dehors de l'Afrique, mais surtout un homme qui a servi son pays, qui a servi l'Afrique et qui a servi son siècle. Même le coup de pouce divin qui fait coïncider son départ avec la journée internationale de la liberté d'expression, ça veut dire que même Dieu s'en est obligé pour lui dire au revoir.
Merci.
Dans les meilleures conditions possibles pour les journalistes. C'est comme Molière sur les planches.
Merci, M. Touré. Denis Kwebo, en deux mots, s'il vous plaît, que retiendriez-vous peut-être de M. Béchi Benyamed, parti ce lundi, 3 mai à 94 ans, de suite de Covid-19?
Disons que nous devons saluer la mémoire de M. Béchi Benyamed. Ce fut un journaliste, un promoteur de médias assez connu des Africains, même si on ne peut pas en dire que du bien. Il faut savoir que beaucoup d'Africains considéraient son organe de presse comme étant une presse de palais et non une presse de peuple. Donc il faut noter cela. Et qu'au fond, je dis que jeune Afrique n'a pas été celui qu'un journal populaire africain, c'était plutôt un journal élitiste qui, en réalité, ne renvoyait pas à la promotion de l'Afrique profonde. C'était un peu l'Afrique d'en haut, non l'Afrique d'en bas. Cela n'enlève rien au pionnier qu'il a été et qui a, qu'on le veut ou pas, porté la voix de l'Afrique sur un concert international dominé par les médias étrangers. Ça a été toujours le principal, le premier organe à avoir au moins du point de vue africain en matière d'opinion, en matière d'information.
Merci.
Sur la scène internationale.
Merci, monsieur.
Saluer sa mémoire, mais ne pas oublier quand même de dire que ce n'était pas l'idéal attendu par des Africains sur le Conseil international des informations.
Merci, M. Kwebo. Alors, M. Amaizo, hein, je propose qu'on entre directement dans le débat. Non pas que j'ai envie de vous exclure hein, de la corporation, puisque beaucoup de journalistes, vous êtes le seul qui ne l'êtes pas dans cette émission. Mais Denis Kwebo parlait de cette presse de palais élitiste et non une presse de peuple pour évoquer Jeune Afrique. N'empêche que ce média panafricain a pu survivre 60 ans, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup, de nombre d'autres médias qui sont nés à peu près à la même période. Quel est finalement le modèle économique qui permet et qui pourrait aider à un média panafricain aujourd'hui ou demain de pouvoir survivre?
Ben, je crois d'abord qu'il faut quand même saluer la mémoire de ce grand journaliste. Je pense qu'il y avait quand même une grande humilité. Je me rappelle toujours les rubriques « ce que je crois », ce qui veut dire qu'il n'a jamais affirmé quoi que ce soit. Je pense que le problème n'était pas tout à fait du côté de Jeune Afrique en tant que tel, mais c'est l'économiste qui parle maintenant. Jeune Afrique, c'est d'abord une entreprise. Et ça, il faut d'abord le dire. C'est que tout le monde passe son temps à voir ce qui se passe, ce qui s'écrit, de l'information de première main, il faut reconnaître pour Jeune Afrique, mais il y a d'abord une entreprise. Et derrière l'entreprise, il y a donc des gens qui sont au capital. Et donc le secret, je pense, c'est qu'il a réussi à comprendre très tôt qu'il faut de la rigueur pour gérer toute entreprise, et plus particulièrement une entreprise média. Il faut arriver à intégrer le maximum de décideurs, de dirigeants africains, ce qui a été fait. Donc, on parle de bonne gouvernance, en fait, pour ce qui est du journal qu'il a créé, qu'il a démultiplié d'ailleurs par la suite. Et il y a un troisième point très important avec la rigueur et la bonne gouvernance. Il y a le fait aussi qu'il y a l'effet pervers, d'ailleurs. C'est que devenant quasiment incontournable, ben, les chefs d'État ou les dirigeants, ils avaient des informations de première main, s'adressaient d'abord à lui dans le sens inverse, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier d'une certaine publicité
possible, à ce moment-là, peut poser un problème. Du coup, les générations montantes, les générations alternatives, les gens qui sont de l'opposition, etc., peuvent avoir des difficultés à s'exprimer aussi facilement que, disons, les grandes structures, quoi.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Abba, vous m'entendez ?
Oui.
Voilà, Monsieur Amazo parle de rigueur, de bonne gouvernance. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour la plupart des médias panafricains qui ont vu le jour et qui, aujourd'hui, n'ont pas pu tenir ?
Non, je crois que Monsieur Amazo a bien raison de souligner que dans beaucoup de médias, on n'a pas bâti d'institutions qui auraient pu fonctionner avec, qui pouvaient fonctionner avec des règles bien établies et qui pouvaient survivre à une personne. Je pense que ce qui a été c'est pas l'objet, Jeune Afrique n'est pas l'objet de notre débat, mais ce qui a le plus marché à Jeune Afrique, c'est le fait que ce média s'est constitué en entreprise, s'est constitué en une institution qui marche, quels que soient les hommes. Que Béchir soit là ou qu'il ne soit pas là, que François Soudan soit là ou qu'il ne soit pas là, la machine pouvait fonctionner parce qu'elle était devenue une sorte d'institution avec des règles, avec des principes, avec des horaires. On sait que le journal doit être bouclé le vendredi soir, et tout le monde s'y mettait pour que ça soit comme ça. Alors que dans d'autres expériences qui ont été faites, que je ne citerai pas par décence, les choses ont plus reposé sur des personnes et non sur des institutions. C'est-à-dire que si la personne a voyagé, le jour-là, la machine se grippe, elle ne marche pas. Et si la personne n'a pas d'argent elle-même pour mettre dans le média ne marche pas. Donc cette absence de rigueur, ce tâtonnement, ces va-et-vient, ces hésitations, ont fait que beaucoup de médias, malheureusement, sont nés, ont essayé de vivre et n'ont pas su trouver leur propre modèle économique, n'ont pas su trouver, associer le modèle économique à la rigueur. Et du coup, voilà, donc ils n'ont pas pu avoir une longévité, ils ont dû fermer boutique assez rapidement.
Même diagnostic pour vous, M. Amadou Ntouré, management personnalisé ?
Bon, disons que, comme tout le monde le sait, M. est diplômé de HEC à Paris. Avant toute chose, il est entré par effraction dans l'information lorsque le président Bourguiba l'a nommé ministre de l'information. Après, il a été piqué par le virus de la presse, il y est resté. Mais en fait, la gestion de Béchir est juste l'application.
Quand vous le dites, M. Touré, vous voulez dire qu'il avait déjà des qualités managériales avant de devenir patron de presse et qu'ils l'ont peut-être aidé.
Il avait des prédispositions. Et c'est conforme à ce qu'il écrit, c'est-à-dire l'indépendance, la qualité des hommes, mais surtout l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En plus, naturellement, la gestion. Moi, j'ai fait un petit séjour de 2 mois, 3 mois avec Sérène André-Mirard, qui est son âme, en 1992 à Jeune Afrique. Je vis comment c'était géré de manière presque impersonnelle. C'est personnalisé, mais en même temps, c'est
si nous pouvons sortir de Jeune Afrique, au risque de laisser penser à nos auditeurs que voilà, nous, on veut se focaliser sur Jeune Afrique, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce qu'un tel journal a pu résister et pourquoi pas les autres ?
Les autres n'ont pas la qualité managériale d'abord, les autres n'ont pas peut-être la qualité professionnelle, les autres n'ont pas la rigueur morale, l'intégrité professionnelle, les autres peut-être ont une autre déontologie. Les autres sont peut-être venus d'un monde où ils ont échoué, donc c'est presque, ils subissent l'information, ils ne la contrôlent pas, ils ne savent pas collecter des informations. Ils ne sont pas à la hauteur de l'entreprise qu'ils ambitionnent de faire ceci. Et ça, forcément, on échoue aussi bien dans l'information que dans l'écologie, que dans les entreprises. Vous voyez des milliardaires africains auxquels leur fortune ne suffit pas.
Merci. Merci beaucoup, M. Touré. On va revenir tout à l'heure, on écoutera Denis Kwebo pour faire un rapide diagnostic de ce qu'on a relevé tout à l'heure, hein, l'absence de médias panafricains forts pour faire face aux médias non africains.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
À la faveur de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai, nous parlons des médias africains. Sont-ils en mesure de s'imposer face aux médias extérieurs au continent? Nous en débattons avec quatre invités. Il s'agit de Yves Ekwe Amaizo, économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity à Lyon en France. Cédric Abba, journaliste et écrivain, Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun, et Amadou Ntouré, conseiller spécial du Premier ministre du Mali et ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement malien. Denis Kwebo, on se retrouve donc avec l'absence de médias puissants panafricains capables de rivaliser ceux dits internationaux. Vous avez suivi ce que les autres ont dit en dressant le diagnostic. Vous faites le même, vous estimez que ce sont les mêmes causes qui ont conduit à ces situations, Monsieur Kwebo?
Il n'y a pas que les médias panafricains pour porter la voix de l'Afrique au carrefour de l'information internationale. Il faut regarder la culture médiatique nationale ici et là pour constater que même déjà en Afrique, l'information n'est pas la chose la mieux partagée. Donc si vous prenez le pays, prenez le Cameroun, le territoire national n'est pas couvert par les médias nationaux. Et vous n'attendez pas que les médias qui ne peuvent même pas couvrir leur territoire local puissent aller à la conquête du marché international de l'information. Et lorsqu'on n'a pas de médias nationaux forts, il est évident qu'on n'aura pas de médias panafricains forts également. Donc toute la question est de savoir si les gouvernements africains aussi les décideurs africains, qu'ils soient du public ou du privé, et comprennent la nécessité pour l'Afrique et pas de porter sa voix à ce carrefour-là dominé par les grands médias internationaux. Les Africains, généralement, ne disent pas, par exemple, aux Occidentaux que l'essentiel des richesses qu'on a en Occident aujourd'hui vient de l'Afrique. Tout le monde entend parler de l'Afrique comme un pays où un continent où il y a la pauvreté, mais les gens ne savent pas que la plupart des grandes multinationales en Occident, aux États-Unis, en Asie, qui l'essentiel de leur richesse de l'Afrique. Si les médias panafricains étaient établis, si les médias africains étaient établis, ils portaient dans la voie du continent sur la place internationale, on saurait que l'Afrique, ce n'est pas seulement la famine, l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui meurent dans la Méditerranée, l'Afrique, c'est le continent qui regorge le maximum et l'essentiel des ressources naturelles du monde. L'Afrique, c'est le poumon du monde avec la pollution qu'il y a ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait des Africains capables, n'est-ce pas, de comprendre la nécessité de porter cette bonne information-là à l'attention du citoyen mondial.
Merci, Denis. Denis Kwebo, pardon, il faut qu'on écoute les autres. Je suis désolée de vous interrompre. Alors, M. Touré, est-ce que vous êtes d'accord quand M. Kwebo dit s'il n'y a pas de médias nationaux forts capables de couvrir l'ensemble du territoire, impossible d'aller à la conquête des autres marchés?
Non, je ne sais pas de quel pays il parle, ni de quel média il parle. Pour la radio et la télévision, en général, le territoire est couvert. Pour la presse écrite, c'est différent en raison du niveau d'alphabétisation des populations. Mais je ne pense pas qu'il faille d'abord être fort pour conquérir quoi que ce soit. La première chose à conquérir, je crois, c'est d'abord la pratique du journalisme. C'est quoi l'information? Comment collecte-t-on l'information? Comment classe-t-on l'information? Comment définit-on l'information?
Est-ce que vous voulez dire, M. Touré, que les Africains ne sont pas suffisamment formés, ne proposent pas une information de qualité, d'où le constat que nous faisons?
Hélas, de moins en moins ils sont formés, de moins en moins ils sont rigoureux, de moins en moins ils s'investissent dans le journalisme par amour du métier, par respect de cette noble profession, et parfois c'est juste des gens qui n'ont pas réussi ailleurs. Parfois, c'est des gens qui sont manipulés par des hommes politiques ou des hommes d'affaires ou des hommes ailleurs, mais qui n'aiment pas le journalisme pour ce qu'il est, qui ne choisissent pas ce métier pour en faire leur passion, pour parler comme Stendhal. C'est d'abord ça le préalable. Avant de conquérir même les marchés internationaux, il faut d'abord s'imposer dans le pays. Vous avez des journaux qui ont 4, 6 pages ou 8 pages maximum, qui se créent et puis qui meurent le lendemain parce qu'il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de journaliste de qualité, il n'y a pas un directeur de publication qui sait de quoi il parle, qui sait pas ce qu'il fait. Et c'est bien que ça tombe le jour où Béchir nous quitte, parce que Jeune Afrique est bien adapté au débat que vous avez organisé. Comment on crée un organe de presse? Comment on gère un organe de presse? En fait, c'est cela d'abord.
Merci.
Former l'opinion du journaliste avant de former l'opinion publique africaine.
Merci. Monsieur Abba, problème de formation comme principale raison de cette situation? Allô, monsieur Abba? Il ne nous entend manifestement pas. Alors, Monsieur Amaïzo, le constat auquel les conséquences, hein, ou la conséquence à laquelle on arrive finalement, c'est le fait que le terrain est occupé par les autres. Comment dans ce cas-là, on peut construire, et selon vous, une véritable opinion publique en Afrique?
Alors, juste rappeler que la fausse centricité, c'est quand même en Autriche. Hein. Je suis seulement de passage en France actuellement.
Ah,
maintenant,
d'accord.
Comment construire je pense qu'on n'a quand même pas dit les choses essentielles. L'information, formation, tout ça, ça doit tourner autour de deux mots-clés pour moi. Une entreprise, qui vend de l'information, et de l'influence. Et quand vous dites ces deux mots, vous avez bien sûr les médias dans toute sa diversité, mais vous avez la publicité. Parce que c'est ça qui vous fait finalement vivre. Et la publicité ne peut pas fonctionner sans un réseau de gens qui vont vous financer par, souvent, de la marketing, publicité.
Mais est-ce que vous évoquez là un point sur lequel je souhaitais vous interpeller d'ailleurs. Est-ce que dans l'environnement économique actuel du continent, un média panafricain peut-il réellement être compétitif, ou s'il est mis en place, est-ce que ça pourrait être un projet viable et donc rentable?
Absolument, absolument. Attendez, laissez-moi finir le raisonnement. Donc, tous ces éléments sont basés sur deux grands axes. L'infrastructure, donc les équipements dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre travail de journaliste, avec bien sûr les équipes, les déplacements et autres, et l'infrastructure, la source d'information qui vous permet de donner de l'information plus ou moins objective et l'orienter. Maintenant, la réalité sur la formation, je ne peux pas tout à fait être d'accord, parce qu'on a des très grands journalistes très bien formés. Le problème réel africain, c'est que quand vous êtes indépendant, je dis bien ce mot, indépendant, alors les pouvoirs, les réseaux dont on a parlé tout à l'heure, ne vous laisseront pas gérer normalement en toute indépendance si vous-même, vous n'avez pas de l'argent, de budget ou des gens derrière qui vous soutiennent.
Et on pourra donc pour vous, le véritable problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent?
Non, attendez, le véritable problème est d'abord le fait que cette information est récupérée par des États puissants qui ne représentent pas la démocratie dans nos pays. Et donc, ils utilisent le volet influence et non pas le volet information. C'est très important ce que je vous dis. C'est l'influence. Donc, si vous allez influencer, dire des choses qui ne vont pas arranger le pouvoir ou les grands patrons dans les pays, qu'ils soient économiques ou politiques d'ailleurs, ben vous allez le souffrir. Des journaux, ils ne respectent pas le minimum de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour tout ce qui concerne les médias et la presse en général. La raison fondamentale, c'est que ces journalistes bien formés, en Afrique comme ailleurs d'ailleurs, sont des gens indépendants. Et à tel point que nous avons des cas, on ne va pas citer les pays, mais je cite d'ailleurs, c'est le Togo, où vous avez un scandale dans le pétrole gay d'aujourd'hui dont personne ne peut arriver à en parler. Et tout le monde, 9 ministères sont impliqués, par exemple. Donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas vous limiter à la notion. On est en économie, là. Vous êtes dans ce qu'on appelle une chaîne de valeur de l'information, où vous avez besoin des gens qui vous financent pour avoir une opinion différente, donc indépendante. Si l'État dans lequel vous êtes ne permet pas cela, donc il n'y a pas de démocratie, quel que soit le mot qu'on lui donne, par définition, vous serez obligé de dire ce que veut ceux qui sont au pouvoir. Sinon, vous allez en prendre des conséquences.
Oui, mais en même temps, juste un mot, Monsieur Ekwemaiso, on a vu par exemple pour les grands médias internationaux ou non africains dont nous parlons, ce sont des médias financés par le contribuable. En Afrique, quel est le modèle qui serait le plus adapté alors, comme, puisque vous exprimez des craintes concernant l'indépendance des personnes qui pourraient y travailler?
Regardez, vous avez des journaux en Afrique du Sud qui sont financés par des gens qui font, en France d'ailleurs aussi, qui sont des vendeurs des armes. Comment voulez-vous que vous allez dire qu'il ne faut pas utiliser des armes et faire des guerres en Afrique? Votre patron, il vend des armes. Vous avez des gens qui sont dans le marketing, par exemple, de transport, sans citer de nom. Comment voulez-vous faire une information si vous allez à l'encontre des intérêts de ces gens-là? Vous avez la plupart de nos gens au pouvoir qui ont leur famille, qui sont dans tel ou tel secteur agricole ou bien industriel.
Justement, à ce moment, c'est quoi qui doit financer éventuellement de grands médias panafricains capables des capitaux privés? Vous dites que c'est un risque. Attendez. Les États, vous dites également que c'est un risque.
Mais, attendez.
Oui.
Public ou privé ne pose pas de problème en soi. C'est votre indépendance. Ne tombez pas dans le piège du public-privé. Ce n'est pas vrai, ça. Si vous avez des gens de l'extérieur ou de l'intérieur qui sont privés, notamment au Nigeria, qui peuvent faire une presse alternative et différente, vous aurez de la presse de qualité.
Merci.
Regardez d'ailleurs dans ces pays anglophones, au Ghana par exemple. Alors, si vous avez des gens qui, eux, veulent s'aligner sur le pouvoir, ben, vous avez une presse qui va être de moins de qualité en termes d'information.
Merci beaucoup.
Ils vont être très forts en influence.
Merci. Oui. Alors, monsieur Abba, on a retrouvé monsieur Abba. Est-ce qu'il est en ligne? Allô? Bien sûr.
Vous écoute.
Oui, on vous avait perdu tout à l'heure. Alors, on parlait avec M. Abaïso de cette viabilité, de la viabilité d'un tel projet de médias panafricains. Pour vous, est-ce que ça doit être un projet porté par la société civile, des investisseurs privés ou des États, comme c'est le cas des grands médias non africains?
Pour moi, personnellement, ce n'est pas l'origine du financement qui est le problème. L'enjeu, c'est le statut qu'on donne. Parce que vous savez, il y a des privés qui financent des journaux. Libération, dans un journal français comme Libération, est détenu par des capitaux privés. Un journal comme Le Monde a beaucoup d'investisseurs. Mais il y a des règles qui fixent la relation entre le média et le bailleur de fonds principal, que ce soit l'État, que ce soit le capital privé, il y a des règles qui disent, par exemple, que même lorsqu'on finance le journal, on n'a pas le droit d'intervenir dans le traitement éditorial. On ne peut pas appeler la rédaction pour dire de changer ceci, pour dire de changer cela.
Et ces investisseurs respectent cette ligne rouge?
Oui, absolument. Il faut définir les règles qu'il y a, la relation entre les médias et les investisseurs. Aujourd'hui, on critique beaucoup les médias dans nos pays parce que le gouvernement considère que les médias publics sont ses médias à lui, alors que c'est les médias publics, ça appartient à toute la population, ça appartient au peuple. Donc, il faut définir la règle de la relation entre les médias. On peut, idéalement, on a vu par exemple, je parle sous le contrôle de Amadou Touré, qui est un ancien rédacteur en chef de la presse, qui était à l'époque la PANA à laquelle j'ai travaillé. Mais dans le cas de la PANA, par exemple...
PANA Presse, le journal comme panafricain.
L'agence panafricaine de presse qui est basée à Dakar et qui a été créée par le pays de l'OUIA, de l'Organisation des unités africaines à l'époque, et qui était le contributeur, mais qui ne restait pas leur contribution. Un modèle comme celui-là aurait pu bien marcher si les États contribuaient régulièrement et laissaient les journalistes faire le travail d'animation éditoriale sans interférer. Donc, pour me résumer, moi je pense que l'enjeu n'est pas de savoir si c'est des capitaux privés ou des capitaux publics, c'est la relation qu'on tisse entre le média, la rédaction et les investisseurs, la possibilité de ne pas intervenir. C'est ce qui donne à ces médias-là la possibilité d'être un média crédible. N'oublions pas que Al Jazeera est financé à 100% par les capitaux qataris, que ça appartient au Qatar, mais que le Qatar a décidé de ne pas interférer dans le traitement éditorial de Al Jazeera.
Merci.
Et qui a valu à Al Jazeera des déboires avec des États arabes. Donc, le principal enjeu, ce n'est pas l'origine du capital, mais c'est le type de relation qu'on crée. On peut le définir de façon juridique pour éviter une interférence
des investisseurs. Merci. Merci beaucoup. On va marquer une pause pour ne pas avoir à interrompre M. Touré et Denis Kwebo qui vont prendre la parole dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Avec nos invités ce soir, nous parlons de l'absence de médias panafricains puissants capables de faire face aux médias dits internationaux qui arrosent le continent. Et nous allons vous donner la parole, Denis Kwebo, en quelques mots. Hein. Donc, Monsieur Abba estime que le problème, c'est pouvoir définir clairement les rapports entre investisseurs et éventuels investisseurs hein, et le média. Est-ce que vous pensez que dans cela est possible sur le continent?
Non, Liliane, vous avez laissé tout à l'heure dire que la plupart des journalistes africains étaient de mauvaise qualité. J'ai dit que c'était un argument factice.
C'est ce qu'a dit M. Amadou Ntouré. Je ne l'ai pas dit.
Il a dit clairement. Il a dit clairement et c'est inacceptable. C'est un argument qui relève du chauvinisme. Ce qu'on entend souvent les Occidentaux dire. Donc, je voulais simplement dire que je m'inscris sérieusement en faux contre cet argument factice-là. Parce que les grands médias du monde sont alimentés en Afrique par des journalistes africains qui sont bien formés à la bonne école et qui,
pour
sur la place internationale, rivalisent tranquillement
pour avec quelques-uns. Pour quelques-uns, parce que le personnel reste des ressortissants pour la plupart de ces pays.
Ce n'est pas vrai, parce que je crois que je peux être bien placé au niveau de la Fédération internationale des journalistes pour vous dire qui travaille où, à peu près, et dans quelles conditions.
Cela dit,
Liliane, cela dit, vous avez également entendu dire que les grands médias internationaux qui poussent des agendas sur la place internationale de l'information sont financés par des groupes de pression, par des lobbies, par des États qui ont des agendas politiques bien précis. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui va porter sur la place internationale l'information qui vient de l'Afrique. Donc, ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de... L'information, à un moment donné, est un élément d'enjeu stratégique, d'enjeu géostratégique.
Mais le problème, c'est que les Africains, est-ce que les Africains comprennent-ils cet enjeu dont vous voulez de parler?
La question aujourd'hui est de savoir et de faire en sorte que les Africains le comprennent. Donc, si on pense que si on est passé à la place internationale, c'est parce qu'on n'est pas bien formé, c'est parce que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour nous, n'est pas de renvoyer au carrefour de l'information internationale ce qui vient de l'Afrique. Or, aujourd'hui, ce qui vient même de l'Afrique et n'est pas conçu et payé par les mêmes Occidentaux qui poussent l'agenda international. C'est là tout le problème aujourd'hui.
Et en quelques mots, Denis Kwebo, justement, compte tenu de ce que vous dites, l'agenda international, il nous reste à peu près 4 minutes et chacun doit s'exprimer pour le mot de conclusion. Comment on construit une opinion publique en Afrique sans être influencé par ce qu'ils entendent à longueur de journée sur des médias non africains?
Il faut que les médias africains soient promus et financés par les Africains qu'ils soient, n'est pas des institutionnels publics ou des institutionnels privés. C'est l'enjeu essentiel aujourd'hui parce qu'il y a suffisamment de ressources humaines pour porter, n'est-ce pas, à ce combat de l'information authentiquement et effectivement africaine. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, les financements, les appuis institutionnels et rien d'autre.
Merci beaucoup. Monsieur Amadou Ntouré, en 40 secondes, le débat c'était comment on peut construire une opinion publique dans ces conditions?
D'abord, il faut construire sa propre opinion. Il faut que les journalistes comprennent où il est, de quoi il parle, de quoi il s'agit. Il faut qu'ils comprennent les enjeux stratégiques. Et c'est impensable de le faire sans formation. Si vous ne savez pas où vous êtes, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas être pertinent. En plus, il n'y a pas d'enjeu africain. L'Afrique est dans le monde. Nous sommes dans un environnement global, que nous le voulions ou pas. Donc chacun pousse ses pions. Mais si ceux qui poussent nos pions ne sont pas formés pour pousser les pions, ils passeront à côté. C'est comme si vous avez une équipe de football où celui qui doit être l'attaquant n'a jamais marqué un but ou ne sait même pas comment marquer un but. En d'autres termes, je parle de ce que je sais et de ce que je vois.
Merci
journaliste,
beaucoup.
Excusez-moi de le rappeler, depuis 1976.
D'accord.
Et j'ai vu des générations de journalistes.
Merci beaucoup, M. Touré. M. Kwebo, en tout cas, n'est pas d'accord avec vous et il l'a dit. M. Amaizo, aujourd'hui, l'enjeu de cette information est là. L'Afrique semble être en dehors. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la construction d'une opinion publique véritablement africaine pour divers sujets?
vous savez, l'opinion est une résultante. Ce qu'il faut, vous l'avez posé comme question, comment faire qu'il y ait des médias indépendants. Moi, je pense qu'au lieu d'attendre que ça vienne d'ailleurs, regardez la diaspora que nous sommes à l'extérieur. Prenons un cas comme le Togo, où vous avez 8 millions d'habitants à peu près, vous en avez 2 millions à l'extérieur. Si les 2 millions s'amusaient à mettre 1 euro chacun, ça fait 2 millions au capital. Donc, même s'il y a 20 ou 30%, nous avons déjà le capital. Il y a quand même un problème de prise en charge par nous-mêmes, les Africains. On a le budget, mais on ne sait pas encore pourquoi on n'arrive pas à s'organiser. Ça, c'est un. Et si vous avez ce budget, alors vous n'avez pas nécessairement besoin de l'État. Maintenant, si l'État volontariste, comme le fait les gens d'Al Jazeera, peuvent le faire, tant mieux. Mais on n'est pas dans cette situation. Donc, ça doit venir de nous-mêmes. Nous-mêmes qui critiquons, faisons l'effort de soutenir soit déjà des presses locales indépendantes et en rentrant dans ce capital. Mais vous avez le problème de fond. Est-ce que les Africains savent qu'on peut travailler ensemble au niveau du capital? C'est ça aussi un autre problème.
Merci.
C'est très, très orienté, et je crois que M. Kabbal a dit, c'est très pyramidal. Et donc, quand un M. X tout seul veut tout gérer, mais quand il n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que l'institution soit structurée, organisée. Tant que la personne soit là ou pas là, ben ça continue.
Que la machine ne soit pas grippée, comme le disait M. Abba. Justement, M. Abba, comment construire une opinion africaine devant la puissance de ces médias? On me dit qu'on l'a perdue. Alors, je vais terminer avec vous, Denis Kwebo. Cette question, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que l'opinion africaine sera toujours intimement liée, ou la construction de l'opinion africaine sera intimement liée et peut-être dépendante de ces médias extérieurs au continent.
Malheureusement, c'est la réalité, Liliane, parce que au niveau africain aujourd'hui, les médias qui ont pignon sur rue, ce sont les médias internationaux, ce sont les médias occidentaux. J'ai entendu, je crois que la plupart des amis disent qu'il y a la nécessité d'une prise de conscience des Africains dans leurs paris institutionnels, qu'ils soient, qu'ils soient privés ou publics. Parce que la place de l'Afrique sur le concert international de l'information est aujourd'hui sérieusement menacée en raison cet attendisme de pouvoir public qui préfère d'ailleurs porter des financements colossaux aux médias dits internationaux. Ce que le Cameroun, par exemple, mettrait dans les médias en France ou aux États-Unis, le pays ne le mettra jamais.
Merci.
Dans les médias locaux. Il faut développer.
Votre correspondant vous
bon,
a mis
on a perdu temps. Denis Kwebo et c'est dommage, donc il ne va pas pouvoir terminer ses propos. En tout cas, c'est ici que prend fin cette édition du Grand Rendez-vous. Merci à Denis Kwebo, président du Syndicat national des journalistes du Cameroun, à Dr Sidik Abba, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef à Jeune Afrique à Abidjan, Yves Ekwe Amaizo, économiste spécialisé en stratégie, et Amadoun Touré, conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Vous êtes également, M. Touré, ancien ministre malien de la communication et porte-parole du gouvernement du Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.